Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien
Ivoire. Vous êtes sur RMC, le Super Moscato Show continue. Et dans 20 minutes, nous allons parler de l'OM et on revient sur un moment dramatique de la saison. C'est cette élimination rocambolesque en Ligue des Champions.
Non, mais ça, on aurait voulu l'écrire dans un scénario de sport. C'est pas possible.
Ensuite, il y aura un témoignage à ne pas manquer, celui de Charline Picon et le Journal Moyen, deuxième édition.
Oui, avec Eric Dimeco qui fait de la pub. C'est toujours aussi catastrophique quand il enregistre des spots de pub. Et un moment mythique de l'histoire du Moscato Show, une très belle archive. Le nom de code de cette archive, le nom de code, c'est Télésour.
Mais tout de suite, c'est une info RMC Sport. Oui. Louis Biel-Biarret veut faire les Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028.
Allô, 1, 2, 3, c'est bon.
Tu passes par quel état?
Je ne réalise pas forcément, mais je pense que c'est le mieux pour moi que je ne réalise pas forcément.
Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'être plus, comment dire, dans la justesse
Je ne me pose pas de questions, du coup. J'ai juste envie de jouer au rugby.
Il peut progresser sur quoi, un gamin comme ça, prendre un peu de plus de force pour avoir des perches plus longues et plus raides?
C'est pour ça qu'il va nous aider à être champion du monde, en tout cas.
Comment tu t'es mis à la natation?
J'ai commencé à 5 ans, assez simple, dans un petit club.
Ça existe, les concours de perches de vieux?
Ça m'évoque pas grand chose.
And I read in your autobiography and you say I was tackling Giant. Giant, you said?
When you play with him, you know he will do the good choice.
An orange.
C'est beau ce que tu dis. Par rapport à l'inspiration de Bob Marley, moi, je me suis dit, il est allé chez.
Non, je l'avais vu, je crois, sur les réseaux.
T'as pas un peu d'air?
Non, bon.
Moscato.
Pour parler, je l'avais vu sur les réseaux. C'est beau, ça.
Je l'avais vu.
Je vous signale quand même que hier, mon cardio, il m'a dit que je pouvais continuer à prendre des perches longues et dures. Il m'a dit.
Je te jure, Eric, qu'on aurait été. Si tu ne pas le savoir, ça nous aurait. Je te dis, on est contact.
Ça, c'est pour ça pour continuer.
On est rassuré. De le dire. Parce que la visite médicale.
J'ai l'impression que Biel-Biarret, c'est pas le meilleur en anglais, non?
Non.
Non, il a.
Ouais, c'est pas le meilleur en anglais, non?
Il doit y
avoir. Par contre,
s'il ne
parle pas anglais,
c'est le meilleur. On va en parler. C'est une info RMC Sport. Louis Biel-Biarret veut faire les JO 2028. Ça fait partie des négociations en cours avec son club pour une prolongation. Biel-Biarret aux JO pour un back-to-back après Paris 2024. Est-ce que ça vous fait rêver? Vincent règle le problème. 32-16 pour en débattre. Peut-être les supporters bordelais ont leur mot à dire sur la question, notamment.
Et voilà.
Les infos de Wilfried Templier. Salut Wilfried.
Allez, le dernier.
Salut tout le monde.
Alors, est-ce que ça bosse entre Louis Biel-Biarret et l'UBB pour qu'il participe aux Jeux de 2028?
Ouais, bah déjà ça discute très fort pour une prolongation de contrat puisque ça arrive à échéance dans un an. Et dans la réflexion de LBB, comme on l'appelle, il y a les jeux, c'est concret, c'est un rêve pour le joueur. Et il a vu comment Antoine Dupont a mené ça d'une main de maître, hein, c'est-à-dire trois parties, joueurs, club et fédération alignés pour ajuster le programme. Souvenez-vous, Dupont avait été dispensé du tournoi 2024, mais ça l'avait pas empêché, avec 14 matchs de top 14 et 8 matchs de Champions Cup, de faire le doublé avec Toulouse en 2024. Il avait participé à deux étapes du World Series à Vancouver et Los Angeles dans l'hiver 2024, puis à la finale à Madrid une semaine après le titre de champion d'Europe avec Toulouse, avant la médaille d'or à Paris. Tout le monde se souvient. Biel-Biarret rêve de ça. Imaginez le combo bleu du 7, LBB, serial marqueur, 34 essais en 30 matchs cette saison, 29 en 27 sélections avec le 15 de France. Impossible pour son club d'aller contre le souhait de son joueur. Et quelle publicité en Mondovision pour le rugby français et l'UBB aussi, si le joueur brille à Los Angeles.
On rappelle qu'il y a une Coupe du Monde un an avant, un rugby à 15. C'est toujours la même configuration, évidemment. En rugby, Vincent, ça te fait rêver, oui ou non?
Mais rêver, tu vas fort quand même, Piron. Moi, ce qui me fait rêver, c'est qu'il soit champion du monde. Mm-hmm. Voilà, qu'il soit champion du monde avec l'équipe de France. Après, ma foi, je veux dire, si ça lui fait plaisir de faire les Jeux Olympiques, ça sera toujours une bonne pub pour le rugby, ça sera pas mauvais, puis lui va se faire plaisir. Écoute-moi, c'est la prime, tu vois, c'est la prime bon élève. Il a le droit, c'est comme Dupont, c'est des mecs exceptionnels qui font avancer, qui marquent le rugby de par leur nom. S'ils sont exposés à 7, c'est pas la plus grande publicité du monde, il jouera pas en NBA, mais ma foi, ça sera toujours un plus, et puis ils vont s'éclater, et puis encore une fois, la prime aux bons élèves, donc si on peut lui aménager son programme, écoute-moi qu'on le fasse, c'est pas très gênant, quoi.
Eric Dimeco, oui.
Pour moi, il n'y a pas Denis.
Oui,
non
Denis, oui, oui, Denis. Oui,
vas-y, ah, non, mais, moi, ah bah non, moi je laisse les spécialistes.
Bah, c'est les JO,
c'est les valeurs. Non, mais c'est les valeurs et tout. Là, sur les valeurs, vous êtes plus fort que moi quand même.
Écoute, rêver, le mot un peu fun, ça me plaît. J'aurais l'idée que Antoine se lance dans ce défi. Parce que c'est quand même un vrai défi. Tu t'improvises pas comme ça. Donc s'il veut y aller, c'est qu'il le ressent et qu'il a envie de réussir aussi. C'est son ambition personnelle. Moi, j'aime bien l'idée que, j'adorerais l'idée, en fait, que l'équipe de France, on prenne les meilleurs, en fait, de l'équipe de France, à 15, et qu'on les mette à 7. Moi, j'adorerais cette idée-là, de faire la grosse équipe. La grosse équipe, pas
pourquoi c'est des pipes, ceux qui jouent à 7, du coup?
Non, mais c'est pas ça que je dis, mais il y a des.
Ah, ben, tu as dit ça.
Hein. Non, pas du tout. Non,
mais les meilleurs ne jouent pas, oui.
Non, mais il y a des profils à 15 qui seraient exceptionnels à 7. Je parle de Penaud, Damien Penaud.
Tu reprends Dupont,
c'est l'exemple. Dupont, n'en parlons pas, parce que je parle de Dupont, évidemment. Mais tu prends Mathieu Jalibert, par exemple. Mathieu Jalibert. Mais il serait monstrueux, je te le dis, c'est monstrueux, c'est les aptitudes qu'il a de jeu, de crochet, de vista, c'est le 7, et puis il va vite Mathieu.
Les meilleurs joueurs ne jouent pas 7.
Mais voilà, donc moi je vais pas vous dire que les meilleurs joueurs jouent 7, c'est pas la vérité. Si tu Mathieu Jalibert, il serait
les meilleurs joueurs de rugby ne jouent pas en rugby à 7,
c'est une histoire de contrat, c'est compliqué, ils ont pas de contrat à 7.
Moi j'ai joué à 7, c'est pas beaucoup plus dur de jouer à 7, c'est même presque pas plus facile, j'exagère.
Non, mais c'est... Denis, pas le 7 d'aujourd'hui. Là.
Le 7 d'aujourd'hui, son physique, qu'est-ce que tu racontes? Et quelle est la différence entre le 15 et le 7 d'aujourd'hui? Explique-moi. Physiquement?
Bah, les répétitions des efforts.
Eh ben, les répétitions.
Ouais,
Boxe, c'est complètement con. Donc là, ça n'a rien à voir. Les efforts sont absolument pas les mêmes. Les efforts, ils dansent sous 7 minutes. Donc on ne peut pas dire que l'un est plus dur. L'un est plus dur que l'autre. C'est le rugby à 15 reste le plus dur sur 80 minutes. Ça reste plus dur. Sur de la course, les mecs sont beaucoup plus légers. Bien sûr que si tu fais.
À
Big Ben, si tu fais faire jouer à 7, bien sûr qu'il va transpirer.
Mais bien le arrive, Wilfried. Tu penses que les efforts, il ne peut pas les répéter sur 14 minutes?
Pas tous. Je peux pas dire tous les.
Tous, mais tu les choisis les meilleurs.
Mais pas tous. Bien sûr que non, pas tous. Pas une deuxième ligne de 2 mètres et 130 kilos.
Par exemple, tu prends un mec comme Makalou, c'est le profil de la superstar à 7, lui. S'il joue à 7, ça va être une superstar. Bon, mais voilà, donc il y a tes mecs comme ça.
Une superstar, mais c'est qui les superstars de 7?
Non, mais je veux dire par là, lui, il joue pas à 7 parce qu'il a choisi de jouer à 15. Après, c'est un choix.
Sinon, Abiel Biarré, toi, est-ce que ça te fait rêver, Denis, de te dire que la France a gagné une deuxième médaille consécutive?
Moi, ça me fait être rêvé, c'est le mot un peu fort, mais en tout cas, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir, Louis.
Avec une belle émotion en finale, Denis, en 2024.
Oui, très, très belle.
Il s'est fait pipi dessus.
Non, mais c'était exceptionnel. Non, mais il a raison de le dire, Wilfried. C'était un grand moment d'émotion.
La première médaille d'or, on rappelle.
En plus, au Stade de France, il y avait une ambiance comme j'ai rarement vu au Stade de France. Donc, il y a eu quand même un élan populaire derrière cette équipe de France.
N'oublie pas qu'à Los Angeles, l'ambiance va être totalement différente.
Oui, bien sûr, on est d'accord, ce ne sera pas la même ambiance.
Bon, d'abord, il n'y aura pas le public français, mais je pense que les Américains ne vont pas trop se passer.
Oui,
pour
ça saucissonner, complet.
Ils ont une belle équipe. Alors, à 7, tu as ta Vegas, c'est ça, à 7. Tu as des tournois quand même, ils connaissent les Américains.
Oui, d'accord, mais c'est.
Mais bon, ce n'est pas très populaire comme en France, c'est sûr.
Biel Biarré au JO de 2028, est-ce que ça te fait rêver, Eric?
Alors, je viens d'apprendre que, du coup, dans le rugby, enfin, dans le sport, il y a une chaîne alimentaire, j'ai compris. Donc, tout en haut de la chaîne alimentaire, il y a le foot, bien sûr, puisqu'en réalité, tout le monde veut jouer au foot. Bon, ben, quand tu as les pieds carrés, tu joues au rugby. Mm-hmm. Puis, quand tu es mauvais au rugby, tu joues au stade, du coup. Donc, j'ai compris qu'il y avait une chaîne alimentaire. Il y a le hand après. Avant ou après, du coup? Après. Puis, le basket, c'est quand? Alors, ben, si Philippe Palas, c'est entre les deux. Ouais, voilà. Donc, la chaîne alimentaire du sport, quoi. Alors, rêver. Alors moi, il y a un truc qui me fascine. Alors moi, je vais répondre répondre au débat tout de suite et après je vais digresser. Moi que Biel Biarré ait envie de faire les JO et qu'on lui permette de faire les JO, écoute, moi je suis content pour lui s'il est fait, voilà. Par contre, qu'on arrête la saucissonnade, mais ça me fait rire parce que vous voulez trouver un prétexte pour que les mecs aillent jouer au rugby pour leur laisser des passes droits, parce que du coup c'est des passes droits, hein, parce que Dupont n'avait pas
joué. Oui, il va avoir une saison aménagée.
Mais ça c'est toujours dans le rugby, c'est toujours comme ça. Denis et Vincent qu'on pratique depuis des dizaines d'années, c'est toujours pas. Je cherche toujours une excuse ou un prétexte ou une explication à un truc qui est pas normal ou qui est. C'est un sport de privilège. Voilà. Non, mais comme ils veulent pas assumer les privilèges, ils essaient toujours de trouver des excuses. Non, mais je veux quand même qu'on m'explique parce que depuis le dernier JO, on en a plus reparlé et ce débat m'intéresse. Donc, Pierrot, on nous a expliqué que Dupont au rugby à 7, ça allait faire. Le boom du rugby à 7, puis ça allait rejaillir sur le rugby à 15, sur le top 14 et tout. Plus personne ne se souvient des Jeux Olympiques. Plus personne, ça n'a rien apporté de plus au top 14 qui était déjà le championnat le plus fort. Ça n'a rien apporté de plus à part à Dupont, du coup, puisque lui, il a des contrats pubs.
Ça faut parler du sport.
Ça, il n'y a pas de problème. Non, mais vous nous avez vendu que la partie. Là, vous êtes en train de nous vendre que la participation. Oui. Vous êtes en train de nous vendre que la participation. Non, vous l'avez dit. Mais vous l'avez dit. Mais vous ne me laissez pas parler.
Ce que je vais dire, les jeunes, j'ai compris.
Donc, ça a été dit tout à l'heure, le fait que Biel Biarré fasse les Jeux Olympiques, ça va être un coup de projecteur sur le rugby à 15, sur le top 14,
sur le grand public,
dans ces cas-là, puisque vous me racontez que ça a apporté les derniers Jeux Olympiques sur le grand public, vous allez me donner les chiffres et la différence.
Après, t'es tout le temps en train de faire des parallèles à chier sur ce sport qui est un sport qui est magnifique. Adrien rigole, ça le fait plaisir. Alors bon, si vous voulez, mettez-vous un poulet sur la tête, partez aux États-Unis, vous êtes bien, avec tous les cons, vous allez être bien, mais nous emmerdez pas avec le rugby quand même. Vous serez bien avec des poulets sur la tête, avec trois règles en disant rien, mais on se dit ou pas.
J'aimerais répondre à ça.
Et la télécommande, il se l'est mis dans le cul. Si vous voulez des heures, parlez des heures de con,
s'il vous plaît.
Vous avez trois règles, un sport de con, restez entre vous. Mais viens pas chier sur le rugby.
Niveau du débat,
j'aimerais répondre à ça, s'il vous plaît.
Régressé, donc stop.
On va à Roland Garros. Est-ce que moi je balance toujours sur ton sport, là, quand même, quoi.
Vincent, je me permets, je pense que Eric, t'as tombé un piège et que t'es tendu un piège.
Mais non, il n'y a pas tendu un piège. Arrête de penser quand on répond qu'il t'a un piège. Il t'a pas un piège du tout. Pour tendre un piège, il faut être un peu malin, ce qu'il n'est pas du tout.
J'aimerais répondre à ça, s'il vous plaît.
Stop, Vincent, calme-toi. Voilà.
Bon. Si on a Biel Biarré, Dupont, Macalou. Ouais. Et Damien Penaud, pourquoi pas, on va être champion olympique.
Je sais, selon mes informations, qu'après ce débat, Vincent a mis de longues minutes à redescendre et à se rendre compte que c'était juste un débat de rugby, quoi. C'était pas très grave. Sur
Surtout que tout ça a été fomenté par Frédéric Pouyer. Hein.
On va parler de l'OM Pirou dans un instant.
On revient sur cette élimination incroyable en Ligue des Champions. Et ensuite, c'est Charline Picon qui nous racontera son naufrage en famille.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aiguin.
Vous êtes sur RMC, il est 16h30, dans une demi-heure, c'est un très très bon débat, c'est Michel Platini face à Kylian Mbappé, donc restez bien avec nous. Ensuite, on parlera de l'UBB qui n'a pas fait les playoffs en top 14,
Fou,
bien sûr le Kikadi à 17h45.
Kikadi, alors c'était une semaine, c'est un Kikadi qui était diffusé un vendredi, et ce vendredi-là, l'enjeu c'était Eric Dimeco, va-t-il terminer sans aucune bonne réponse sur la semaine? Bubule, rendez-vous 17h45.
Mais tout de suite, l'Olympique de Marseille, ce match va-t-il laisser des traces avec un guest star?
Oui,
très très agacé.
RMC, le Super Moscato Show.
Les Benfica, wow, il y aura un dernier coup franc dangereux pour le Benfica. Oh,
c'est quoi le club face à Porto, Denis?
Benfica. Et c'est Orsnes, le milieu de terrain, qui va pouvoir le mettre dans la boîte. C'est parti, ça passe devant tout le monde. La tête de tomber, la bouche.
Quel championnat des merdes.
La chèvre, merveilleux la chèvre.
C'est le gardien de Benfica qui marque.
Bexista.
Mais si, c'est bon.
Et qui va mettre l'Olympique de Marseille hors de cette compétition?
On a été nuls à chier, tout simplement.
C'est inadmissible. Ils gagnent jamais les matchs importants comme ça.
Le dénouement est fou. C'est le gardien qui a marqué.
Corruption dans des championnats de merde.
Le Bexista.
Bexista.
Le fait.
Fener Marek.
Breaking news.
Fener Marek. Ouais.
Pourquoi pas.
Alors donc.
Fener Marek, c'est quoi? Fener Marek.
Oui, mais vous comprenez.
Oui, mais on comprend. Oui,
bah, c'est plutôt pratique aussi.
Qu'on comprenne. Voilà. Et les auditeurs comprennent aussi.
À tous.
Maintenant, ça y est. Ouais. Ça va. Ah ouais, bah, les nouveaux arrivés, des fois.
Si vous êtes des nouveaux auditeurs du Super Moscato Show, nous avons des dyslexiques à l'antenne, mais ne vous inquiétez pas.
On traduit.
Avec Adrien, on traduit.
On s'en occupe.
D'ailleurs, à 16h30, on parlera de Dicam.
Et vous en parlerez.
A échoué. On va tout de suite dans le dur, Vincent, avec la catastrophe pour l'OM. Élimination en phase de poule de la Ligue des Champions après un match complètement raté.
Incroyable.
À Bruges, défaite 3-0. Le scénario est incroyable, mais la contre-performance l'est tout autant. Le directeur du football, Mehdi Benatia, a pointé les joueurs. Cette défaite va-t-elle laisser des traces? 32-16 supporters marseillais. On va vous donner la parole. Alors, pourquoi j'insiste sur Mehdi Benatia? C'était en direct sur RMC au micro de Florent Germain. Il a clairement insinué que certains joueurs allaient rendre des comptes.
Mais s'il y a un joueur dans la surface et qu'on est quatre à le regarder et qu'il n'y en a pas un qui marque, c'est la faute de qui? La faute du coach? Non, c'est pas la faute du coach. Donc à un moment donné, il faut prendre les responsabilités. Mais j'espère vraiment qu'il y a quelques joueurs qui vont se faire un examen de conscience. C'est la mode aujourd'hui, les agissés de génération, ils rentrent toujours sur plein de choses qui ne les regardent pas. Tu sais? Par contre, quand il faut les avoir sur le terrain, il faut se dire les choses sur le terrain. Quand tu es en train de jouer une finale comme ça, importante pour l'histoire du club, pour la continuité, et que tu fais rien du tout, et que tu as des joueurs qui ne sont même pas rendus compte de l'événement, qui sont en train de marcher, moi ça c'est des choses que je ne peux pas accepter. Et moi j'ai toujours dit, celui qui n'est pas content, celui qui trouve qu'on est trop exigeant, il apporte les larmes.
Alors, il a dit, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, il y a certains joueurs qui ont mouillé le maillot, mais pas tous. Bon, j'ai l'impression qu'il va y avoir un règlement de compte en interne, là, non?
C'est la moindre des choses.
Ouais.
C'est la moindre des choses. Quand tu te rends pas compte de l'événement, on leur demandait pas 3-0, quoi. Ils se foutent de qui?
S'ils perdent 2-0, non, ça passe, t'imagines?
Moi, je me mets à la place de Benatia. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Tu vois, t'es navré quand t'as tapé les mots, t'as envie de les frapper. T'es là, tu te dis, mais vous êtes des dingues ou quoi? 3-0 à Bruges, on n'est pas au Real Madrid, on est à Bruges. Alors, je veux bien, moi, que vous me vantiez toutes les équipes, toutes les qualités de cette équipe de Bruges qui survole la Champions League depuis des décennies, mais fait quand même 3-0 quand t'es Marseille, qui te faut au moins un but pour te qualifier, que t'es pas foutu de marquer un but. Mais les mecs, c'est des mecs, ils ont recruté qui en vérité? C'est leur faute. Quand il me dit Benatia, c'est qui sont les recruteurs?
Mais il était super joueur, en tout cas.
À un moment donné, il faut des examens psychologiques, il faut savoir si c'est des flancs, si c'est des flancs Mireille ou si c'est des mecs qui bataillent. Ça suffit pas d'avoir d'être bon techniquement, tout ça. Il faut faire partie d'un groupe et tout. Le recruteur recrutement, c'est important psychologiquement de savoir qui tu recrutes. Quand t'as des mecs comme ça qui ont peur de tout, puis il y en a marre. Lui, il doit se dire, mais qu'est-ce que c'est cette équipe? On met 3-0 à Lens, on se fait défoncer 3, c'est meilleur Bruges que Lens. Je suis pas sûr. Bah moi, même je te dirais que je mettrais Lens devant, moi, par rapport à Bruges. Mais quand même, mais ces mecs, cette inconstance, cette irrégularité, on est là comme ça, c'est pas professionnel. Je m'excuse, un professionnel, c'est quelqu'un qui est capable, justement, de renouveler un effort de haut niveau assez régulièrement. Je te dis pas à 100%, mais au moins à 80%. Eux, c'est pas des pros. Ils ont du sang de navet. Ils ont du jus de betterave dans les veines. Il faut qu'il y ait des leaders. Il n'y a pas de leader dans cette équipe. Les leaders, ça se décide pas en disant, toi, t'es leader. Ça, c'est inné.
Les actes,
quand
ça,
t'es leader, c'est inné. Il y a des mecs qui se ramassent dans les vestiaires. Boum, le capitaine, il prend tout le monde, il resserre tout le monde. On y va au massif. Ça va mal. Ça va. Qui?
Greenwood.
Mais non, mais machin. C'est machin.
Balerdi.
Mais non, mais Greenwood, t'as vu le regard, on dirait Omar. Il est là. Il a les yeux du veau dans la luzerne. Quand il marche les genoux, il a l'œil blanc comme ça, me fait peur. Il doit rien comprendre au tableau noir. Il doit s'endormir près du radiateur avec le coude sur le radiateur. Il doit rien comprendre. Alors les mecs disent, oui, mais dès qu'il fait un bon match, les mecs disent, ouh, il fait un bon match. Mais oui, mais techniquement, on s'en fout qu'il fasse des bons matchs. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il fasse bien jouer les autres. J'en ai marre. Mais non, mais Denis, pas plus mauvais. Il faut qu'il fasse jouer les autres. Greenwood, quand t'as un bagage, que t'as joué en Angleterre, que t'as été un des meilleurs joueurs anglais, faut que tu fasses jouer. Faut que tu sois un leader de football. Un leader de football, c'est un mec qui amène plus que quelques jongles. Il dit, oh, il a fait un beau. Dit, comment ça, il a chaloupé. On s'en branle. On s'en fout. À la sortie, son équipe, elle marque plus, elle ne marque pas. 3-0. Alors on me dit, ils rebondissent. Non, je te l'ai dit, Pierrot, je te l'ai dit tout à l'heure. À un moment donné, le ballon il est dégonflé.
Il rebondit plus.
À un moment donné, le ballon il est dégonflé, il rebondit plus.
Ça va laisser les traces.
Il rebondit plus.
Ça va être chaud là. Ça va être chaud.
Bien sûr, psychologue. Mais t'imagines comment ils sont rentrés là? Comment ils se regardent, les mecs? Comment ils se regardent?
Ils sont en stage en plus, ils sont à Clairefontaine.
Mais comment tu fais pour être en stage? Moi j'annule le stage.
Mais
je m'en fous, j'annule le stade. J'ai dit, j'annule le stade, rendez-vous, tu sais quoi? J'ai dit, vous me méritez pas, rendez-vous quand c'est le match.
Samedi.
Rendez-vous samedi matin. Chacun se démarre de
prendre un jambouin. Et toi, tu fais le discours. Tu fais le discours.
Et avec un maillot.
Non, mais là, j'imagine 25 professionnels de foot qui doivent prendre un billet pour aller à Paris, c'est mort.
Mais non, mais j'ai dit, demander à
l'assistance. Il n'y a jamais un qui prend un billet pour lui-même.
Si, tu dis, demander à l'assistance publique, parce que moi, vous êtes tous. Il y en a pas un machin, à un moment donné, t'es sûr que tu vas en perdre, le Secours catholique va t'en ramener Greenwood, qui comprend que dalle, parce que lui, il doit comprendre rien. Mais rien doit comprendre. Donc, je vais te dire, De Zerbi, responsable, grand responsable, bien sûr, premier responsable, De Zerbouille, parce que moi, je veux bien de Mehdi, ça le conforte. Bien sûr, parce que c'est compliqué de changer d'entraîneur, c'est compliqué. Mais il voit bien que c'est pas le mec de la situation. Même s'ils ont de bons rapports entre eux, les bons rapports, ça suffit pas. À un moment donné, t'es là pour mailler, d'avoir des résultats. Donc, excusez-moi, j'ai été un peu long.
Non, mais c'est
très bon, Vincent
Moscato.
Marseille,
ça s'appelle Marseille. Le super Moscato Show.
D'accord, mais Marseille, je vais te dire, j'aimerais pas être dans leur groupe actuellement.
Denis, est-ce que ça va laisser des traces, Denis?
Alors, écoute, j'entends Vincent, évidemment, je vais dans son sens, mais il y a, moi, j'ai un autre regard. Je me dis, est-ce que, effectivement, ces joueurs sont pas capables d'aller à la guerre? Ou est-ce que l'entraîneur aussi n'est pas capable de les amener à la guerre?
On avait dit ça, que le mec ne les préparait pas psychologiquement, il a besoin de ce groupe d'être
préparé. Moi, je me pose la question.
C'est difficile de répondre parce que contre Lens, ils avaient le moronant. Tu vois, ils sont arrivés affamés.
Oui, mais ça peut venir aussi du discours de l'entraîneur, de ce qui fait passer aux 16 joueurs. Parce que je comprends pas hier soir que, je sais pas, tu dois être en état de, je sais pas moi, hier, tu arrives en transe, tu dois tout casser, c'est pas possible. C'est vrai que les joueurs, c'est les premiers responsables. Je suis d'accord avec toi, Vincent. Mais après, il faut arrêter. Moi, je pense que la responsabilité, elle est entière pour tout le monde.
Pour
Benatia, même pour le président, même pour tout le monde.
Surtout pour De Zerbi et ses joueurs.
Je suis désolé. Alors, évidemment,
conséquences.
Mais les conséquences, je vais te dire, moi les conséquences pour moi, la bonne nouvelle pour Marseille, c'est qu'ils ont pris deux recrues formidables. Et que là, ça change. Les deux qui sont venus,
ils sont bons. Sauf que ils sont venus dans l'optique aussi de jouer peut-être de Ligue des Champions.
Je parle pour la fin de saison parce que la Ligue des Champions c'est fini. Donc je dis, ces deux mecs en Coupe de France, ils vont leur amener un plus. Ils changent le visage de cette équipe. Tu vas voir, je le pense vraiment.
Attention, les deux vont rentrer dans une espèce de marécage.
Ils n'étaient pas qualifiés pour ce match-là. Mais ces deux super joueurs qui vont leur amener un supplément d'âme, je pense que ces joueurs, c'était des joueurs de très haut niveau. Mais là, c'est inacceptable. Enfin, ça me rend fou. Moi, je serais Marseillais aujourd'hui, je sais pas, moi.
On va en écouter des Marseillais et notamment un personnage de Marseille qu'on connaît bien sûr à RMC. D'abord, l'avis de Stephen.
Moi, je pense que c'est les séquelles indélébiles. Séquelles indélébiles de ce qui s'est passé hier.
Jusqu'à la prochaine saison.
Parce que déjà, t'es éliminé de la Ligue des Champions. En soi, c'est un drame. C'est un énorme échec puisque les ambitions de l'OM, c'était avant tout d'être dans les 24 pour jouer.
Il se met à poil, Denis.
T'as eu chaud, quoi, Denis? Après ton petit. Non, mais c'est un échec.
Denis. Et de coup,
Denis a enlevé son jus et son torse.
Donc, c'est quel indélébile parce que c'est un échec monumental dans ta planification de saison parce qu'à minima, tu voulais jouer un barrage et ensuite le scénario de ce match-là te met une double gifle. C'est-à-dire que t'as pris 3-0. Déjà, t'as été nul. Ton match, t'as été nul et en plus de ça, t'es éliminé par un coup du sort d'un gardien, mais c'est pas ça qui t'élimine. Mais ça, c'est la deuxième.
Tant mieux, même.
Ça, c'est le deuxième effet qui se coule, ça déjà. T'as pris 3-0. Deuxième effet qui se coule, c'est le gardien. Ensuite, quand tu vois les équipes qui sont devant toi, qui sont qualifiées, quand tu vois Bodø/Glimt qui se qualifie en attendant Manchester City et l'Atlético de Madrid sur les deux dernières journées, Carabag, Olympiakos, c'est Evan Fournier, c'est le basket. Mais non, eux, ils sont là dans les 20 premiers.
Brest l'an dernier.
Oui, et tu te retrouves avec un effectif pléthorique sans Ligue des Champions. Et cette année, l'année dernière, c'était 11 points pour te qualifier dans les 24. Cette année, c'était moins, c'était 9.
Marseille, c'est pas pléthorique, c'est pétorique.
Oui, pétorique. Et y a un garçon dont on parle très peu. Franck McCourt, qui a mis des millions et des millions, qui a fait confiance à Mehdi Benassia, à Pablo Longoria.
Il est responsable aussi.
Il est responsable des hommes qu'il a mis en place. Oui, il est responsable des hommes qu'il a mis en place. Parce que Mehdi Benassia, il a peut-être des comptes à rendre aussi aux mecs qui envoient des millions chaque année, qui leur permet de recruter. Tu me parles de Noaneri et Timber. C'est McCourt aussi qui leur permet de recruter des mecs comme ça. Ils ont un effectif XXL et ils se retrouvent pas dans les 24. Pas dans les 24. C'est-à-dire qu'il y a 8 équipes éliminées qui sont 8 équipes de pipe. Et ils sont dedans.
Attends,
ils sont dedans.
Tu as raison sur l'argent. On rappelle que Marseille, c'est le 17e budget européen. T'es au niveau de Newcastle en budget. Donc, c'est là aussi que tu peux parler du travail. Tu travailles bien ou tu travailles mal. 17e budget, tu sois.
Ce qui veut dire, ça, c'est pas tout. Ça veut dire qu'il y a peut-être plus maintenant, mais il y a 50, 10 ans, tu pouvais être à Lille pour gagner la Champions League. Peut-être plus là, mais il y a 5-10 ans.
Avant les Qatari, 10 ans.
Non, il y a 10 ans.
Mais Vincent, Denis, vous vous rendez compte, on a tous vécu des moments compliqués. T'arrives au petit déjeuner, là. Là, t'es à Clairefontaine, tu prépares. T'arrives au petit déjeuner, t'as la tête comme ça. Mais comment tu fais?
Tu prends un chocolat chaud et tu ne parles pas. Tu
ne dis rien. On mettra en transe comme Philippe, Quentin.
C'est la vie de Philippe
Entraz.
Oui, d'accord. Ça n'a rien à voir avec le débat.
Là, c'est loin.
Il est 15h20 sur RMC. L'événement, c'est cette soirée cauchemar de l'OM. Première question. Cette défaite, cette élimination va-t-elle laisser des traces? Nous allons à Marseille retrouver le patron du nul par ailleurs, Patrice.
Figure.
Comment ça va, Patrice?
Allô, les amis.
Salut Patrice.
Salut Pat.
Vous allez bien, vous?
Ouais, on va bien.
Et toi, comment tu vas?
Le grand. Tu vois que le grand, il va bien, le nez pointu, tout le monde va bien.
dis-moi, Patrice, comment tu l'as regardé, ce match?
On a de la peine pour Eric.
Pour toi.
Je l'ai regardé. Comment tu veux que je le regarde? Je regarde Pignolan, tu dois gagner. C'est un match, tu dois gagner, prendre au moins un point. Et si le pauvre Pavard avait été pas suspendu, il aurait fait jouer 8 défenseurs. Il a fait jouer tous les défenseurs que tu avais dans le club. Medina au milieu du terrain, Traoré qui se montait sur Wea. Mais c'est un fou. Tout ça, c'est un fou. Vous avez décrété qu'il avait un beau CV. Il a entraîné 3 équipes de T2. Sassuolo à Moscou, je sais pas où. Et le grand Brighton. Il faut arrêter, les gars.
Le grand Brighton.
Et les journalistes aussi. Alors maintenant, c'est pas que la faute de l'entraîneur, les joueurs. Tu as ce que tu as.
Non, mais t'as quand même une équipe sur le papier, quand même, Patrice.
Tu as une équipe, mais tu as fait 30 matchs, 30 défenses différentes.
Mais oui, il n'y a aucune cohérence.
Quand on est ridicule contre Nantes, il arrive à faire jouer Aubameyang, 37 ans, qui descend de l'avion du Qatar la veille, alors qu'il, soi-disant, tu devais le prendre pour le reposer. Et je ne sais pas ce qu'il fait, je ne suis pas dans sa tête, moi, mais bon, il m'aura fou.
Comment tu vois la suite, Patrice? Notamment, Benatia a dit. La priorité, c'est la Coupe de France, même maintenant, pour sauver la honte, dit-il.
Ouais, c'est la Coupe de France, parce que quand on va recevoir Rennes, ça va être un bon match, mais si le match d'après, tu vas, je sais pas où, j'en sais rien, la Coupe de France, ça s'appelle une Coupe, c'est aléatoire par excellence.
Et hein, oui.
Donc, j'en sais rien.
Mais est-ce que tu finis?
Je vois la suite, que si tu arrives à rattraper Lens, tu feras second. Mais comme Lyon, ils sont là, ils sont bien avec Hendrix, parce que Jimmy. il t'arrive un jeune, il t'arrive Jimmy. Il a 18 ans, il jouait pas, il arrive en France, il te met le feu. Nous on a pris un, je me rappelle même pas le nom là.
Noaneri. Attention, il est bon.
Le fils de la Joanie, il est bon.
Il a 18 ans, il a traversé le terrain contre le premier du championnat, il a traversé le terrain. Donc je sais pas, il y a David Padoue et compagnie vont dire que le championnat de France c'est bon, mais je sais pas s'il est vraiment très bon. Je pense qu'il est très costaud le championnat de France, mais qu'il est pas très bon. Et à une Coupe d'Europe, on est comme un peu.
Mais Patrice, là, mais
Patrick, oui, tu penses pas que l'Europa League est quand même dimensionnée pour l'OM, non? Plutôt que la Champions League, Patrice.
Ouais, mais l'Europa League, j'allais dire, à partir du moment où tu as une nouvelle formule, tu peux plus le prendre en vert.
Il te chauffe là, Patrice. Non, Patrice, Patrice, tu gagnes la Coupe de France.
À une Champions League, on a fait en Europa League, on a quand même fait 3 finales. Là, c'est peut-être ton niveau, mais bon. Si tu finis en haut, tu finis en haut. Qu'est-ce que je te dise?
Patrice, tu gagnes la Coupe de France.
Je préférerais être renversé en Europa League là, ce soir, mais ça n'a plus. L'année dernière, il y a 2 ans, c'était bon. Là, c'est plus bon. Alors, qu'est-ce que je te dis là?
Patrice, si tu gagnes la Coupe de France, est-ce que ça sauve la saison de l'OM?
Ça fait un titre, oui. On va dire oui. Comme ça, les gens seront contents. Ça dira oui, ça fait un titre. Ça dépend quand toi qui c'est la finale. Si c'est la finale, que tombe sur les mines,
Oui, mais ça fera une Coupe de France quand même.
Vous êtes foutu de la perdre, de la gagner au penalty. Qu'est-ce que je te dis?
Ce qui aurait sauvé la saison de l'OM, c'est de ne pas perdre en pénalty au Qatar il y a 3 semaines.
La bonne nouvelle, Patrice. Qu'il y a toujours un club français à Lille qui risque de faire un truc, c'est le PSG quand même. C'est la bonne nouvelle, ça.
C'est une très très bonne nouvelle. Hier, ils ont été parfaits. Ils ont fait sortir des 16, des 8, des 12. Ils sont bien excités aussi. C'est magnifique.
Écoute-moi, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'OM, c'est une équipe de vie?
Alors écoute-moi, là, tu peux pas dire. Alors écoute-moi bien, parce que là, je rigole pas, je
démarre.
C'est pas une équipe de vieux, c'est une équipe de gros vieux.
Voilà. Jamais comme on dit les plus vieux.
Patrice, merci, on se régale. Patrice. Et on fait une promesse à Patrice, on l'appellera un jour, un lendemain de victoire aussi.
Oui, bien sûr.
On sera peut-être plus là par contre.
Patrice. Ça marche, le nul par ailleurs, ça marche bien, les pizzas, tout ça, ça envoie.
Tout va bien.
T'embrasses Franck. Les problèmes d'hygiène, les gros ratas qu'il y avait dans la cuisine, non, tout ça,
c'est
bon.
Il est intégré.
C'est bon, ça va. Embrasse Franck. Ciao.
Très bon client. Patrice du nul par ailleurs, une institution à Marseille.
Il faut être marseillais pour se rendre compte de la souffrance des supporters de l'OM cette saison.
Mais là, tu sais qu'on l'a même pas appelé après la finale du PSG.
Non, mais il veut plus, lui.
Ah, il veut plus.
Non, il en a marre. Parce que Steve se fout de sa gueule à chaque fois.
Ouais, c'est vrai. Bon, Pirola, un témoignage incroyable, quelqu'un qui a failli mourir en mer avec toute sa famille. Un témoignage fou, c'est Charline Picon,
la championne olympique de planche à voile, qui était partie autour du monde en famille après sa médaille d'argent sur les JO de Paris. Et elle nous raconte donc une histoire qui aurait jamais dû arriver, qui heureusement s'est bien terminée.
Allez, cri du cœur sur RMC.
Le cri du cœur du Super Moscato Show.
Notre cri du cœur, c'est l'une des chouchous du Super Moscato Show. Charline Picon, triple médaillée olympique, championne olympique en planche à voile en 2016, puis l'argent à Tokyo et le bronze en 49er avec Sarah Steyert à Paris. Salut Charline.
Salut tout le monde.
Salut Charline. Marseille.
Alors Charline, il y a un moment qu'on voulait t'avoir parce que tu as vécu une mésaventure. On peut même dire beaucoup plus que ça. Il y a quelques semaines, tu étais parti autour du monde en famille et ça a mal tourné. Mais d'abord, ton actu, c'est la fin de ta carrière olympique. Tu as décidé d'arrêter.
Ouais.
Et c'était un grand moment d'émotion pour toi. Hein.
Bah ouais, déjà à la base, je suis une grande émotive. Donc, c'est pas le moment le plus rigolo, mais c'est vrai que ça ramène pas mal de souvenirs. Mais je suis assez tranquille avec ça. J'ai eu un an sur le bateau, effectivement, pour vraiment peser le pour le contre, savoir si c'était le bon moment. Et je crois vraiment que c'était le bon moment. Ouais.
Quand tu dis sur le bateau, c'est au moment de ton tour du monde. Hein.
Oui, exactement. Il y a eu des longs moments d'ennui là-dedans.
Mais c'est sûr que ça fait rêver sur le papier, mais après on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait pendant un tour du monde en bateau? On discute,
On stresse, on... on discute, j'ai fait une petite introspection, on écrit, on écoute des podcasts.
Il y a des haltes, il y a des haltes sympas quand même, non?
Ouais, il y a des haltes sympas, mais souvent tu bricoles, enfin voilà, c'est pas tant les vacances qu'on imagine.
Alors après les JO, donc, les JO de Paris, qui se terminent sur un succès, hein, avec cette médaille de bronze, en 49er, qui n'était pas ton embarcation de départ, on se souvient de l'histoire. Mois d'octobre 2024, vous décidez de partir à bord de Luna Bay 2, votre bateau personnel avec ton conjoint et ta fille. Il se trouve que dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2025, donc au bout de plusieurs mois, vous percutez un OVNI en Polynésie française. Et là, c'est le cauchemar qui démarre, Charline.
Ouais, bah clairement, on avait choisi des conditions sympas pour partir des Marquises et aller au Tuamotu pour justement faire de la wing foil et tout, tu vois, le bon plan. Oui, oui. Et puis première nuit, 3h du mat, on percute un truc. Le temps que j'étais en repos, donc c'était mon conjoint qui était de quart, comme on dit, et le temps que je me lève pour voir ce qui se passe, et ben, il y avait déjà de l'eau aux chevilles. Donc, heureusement, on était sur un catamaran. On a eu du temps de se mettre en route, quoi. Mais c'est vrai que là, direct, c'est l'eau, la vision d'horreur.
En pleine nuit.
Ouais, à 3h du
mat. Pleine nuit de l'eau, une grosse voie d'eau dans le bateau. Donc, urgence, directement.
Urgence. Donc, tu lances des Mayday. Sauf que quand tu lances un Mayday, c'est que ça va pas bien. Et en Polynésie, t'as pas beaucoup de bateaux qui naviguent, contrairement en Atlantique où ça va très vite. Et là, il y a personne qui répond.
Est-ce que tu peux nous expliquer le minute par minute? Oui. C'est-à-dire que dans l'ordre, qu'est-ce que vous faites exactement?
Dans l'ordre, donc mon conjoint, il va d'abord voir dans les cales moteurs, voir s'il y a de l'eau. Et là, il n'y avait pas d'eau. C'est moi qui découvre qu'il y a de l'eau dans la coque bâbord. Donc là, j'annonce la voie d'eau. On réveille Lou, qui était en train de dormir. Voilà, ma fille. Et là, c'est petit moment de... Là, tu prends l'adrénaline dans les veines. Et puis, il faut organiser la suite. Enfin, moi, Mano, donc, mon conjoint, il cherche la voie d'eau, voir s'il peut trouver d'où ça vient et s'il peut réparer. On s'avère qu'en 10 minutes, l'eau est montée aux genoux, donc c'était plus possible, c'est mort. Donc là, les Mayday pour voir s'il y a un bateau pas très loin qui peut nous aider. Et ensuite, affaler les voiles, et puis commencer à préparer la survie, quoi. C'est-à-dire préparer les sacs au max de ce qu'on peut. Et puis après, ton dernier moyen de démettre ta détresse, c'est une balise qu'on a satellitaire, que tu déclenches. Et en fait, là, nous, on n'a pas la dernière version, donc tu n'as pas de message qui te dit que le message a été reçu.
Donc, tu envoies à la bouteille à la mer, en gros. Tu envoies un message, mais tu ne sais pas s'il est reçu, quoi. C'est
exactement. Mais... Et donc là, moi, j'annonce qu'on part dans la survie parce que le bateau commence à pencher. Donc, ma fille.
La survie, c'est un canot de
Ouais, c'est les petites. En fait, c'est dans une boîte et tu la déclenches et elle se gonfle à l'arrière et du coup après tu montes là-dedans et là il s'est suivi 6 heures sans qu'on sache si notre balise avait bien émis, donc 6 heures à te demander si quelqu'un va venir et au bout de 6 heures on a l'avion de la marine nationale qu'on a entendu.
Mais tu dis 6 heures, vous avez quitté le bateau?
Ouais, 6 heures qu'on a passé dans ce petit canot là, voilà.
Quel âge a ta fille?
J'allais dire, comment vous faites pour assurer, parce que vous devez prendre sur vous et pas montrer votre stress.
Exactement.
Et votre peur,
ouais. En fait, c'est une espèce de cercle vertueux où tu te dois de pas montrer de panique pour ton enfant. Et en fait, elle, une fois dans la survie, en fait, elle a eu peur sur le bateau quand il a commencé à changer d'équilibre. Et ensuite, dans la survie, elle était quand même assez calme. Après, un enfant de 8 ans, il s'ennuie, hein. Donc, c'est la galère.
Ah ouais, il n'y a pas la switch. La mère était pas dérangée.
Je l'avais prise, mais j'avais pas pensé. Il y avait plus de chargeur.
Et la mère était pas démontée, elle était.
Et non, heureusement. En fait, on avait choisi des conditions franchement où ça devait pas arriver, donc c'est là.
Et vous savez ce que vous avez tapé ou pas?
Non, on saura pas. En plus, c'est la grosse inconnue. Et on nous demande souvent, tu sais, ça peut être un conteneur, comme ça peut être plein de trucs. Et donc voilà. Donc pendant 6 heures. Le temps est long. Moi, je me préparais à plus long. J'essayais de dire à Lou que ça, parce qu'elle nous demandait souvent quand est-ce qu'ils allaient arriver. Tu te dis, je sais pas. Peut-être demain.
C'est comme quand tu es sur l'autoroute pour les vacances. On arrive quand?
C'est ça. Voilà, c'est un peu plus long et t'as un peu plus.
C'est la marine qui est venue au...
Alors la marine, en fait, ils nous ont repérés. En fait, ils sont partis de Tahiti. Ils ont 3 heures de vol ou 2 heures et demie, je crois. Est-ce qu'on était vraiment du coup au milieu de rien, hein, loin de tout. Et une fois qu'ils nous ont repérés, ils essayent de trouver un bateau qui est pas trop loin. Ils ont trouvé un bateau qui était à 4 heures de nav de nous, donc il nous restait encore 4 heures à attendre, mais au moins on était.
Oui. On était vous avez repéré, attendu 10 heures en tout.
Rassurez-vous, parce que vous savez qu'on vous avait repéré.
10 heures. 10 heures en tout.
Wow. Et ensuite, sur ces bateaux, tu peux tenir combien de temps du coup
Plusieurs. Deux jours. Peut-être plus. Moi, je me raccrochais à une histoire. J'étais tombée quelques semaines avant, je crois, sur les histoires de. Mais c'était. Moi, je ne savais pas que c'était il y a longtemps, avec moins de moyens qu'aujourd'hui. Et donc, les mecs avaient passé 115 jours sur leur survie.
Ah oui.
Et donc, je me disais,
jours.
Bon.
Ah, t'étais prête à faire 115 jours. Okay.
Non, mais... pas 115.
Allez, on bat le record.
Non, mais en plus, ils n'avaient pas un enfant du temps, tu vois.
Ouais. Alors, tu dis, il ne fallait pas montrer aucune panique à Lou, ouais. Mais est-ce qu'il y en a eu de la panique? Est-ce qu'il y a un moment, malgré ton expérience de navigatrice,
j'ai pas une expérience de ça, moi. Moi, en fait, ce qui est assez fou, c'est que dans ce genre de situation, le stress, l'adrénaline et tout fait que je suis en mode warrior, quoi, comme en compète. Et moi, qui suis méga émotive, zéro émotion, de glace.
Pragmatique.
Bon, mais tu n'as pas pensé à une seconde à la mort?
Alors, pas sur l'instant, on ne s'est pas senti en danger de mort. Après, des fois, tu as l'idée qui te passe dans la tête en te disant, est-ce qu'on va nous retrouver? Bon, moi, je n'y ai pas trop pensé. J'avoue que mon conjoint a été jusque-là, oui.
Ah oui. On est avec Charline Picon, donc triple médaillée olympique, qui nous raconte donc le naufrage du bateau. Qui est devenu le bateau, d'ailleurs, Charline?
Alors, vous allez halluciner, c'est qu'il a fait 3000 km et il est aux îles Cook, sur une toute petite île. Il, est,
il a dérivé 3000 km plus loin.
Incroyable. Pendant 2 mois. Ouais.
Ah, mais il n'a pas coulé.
Non, il n'a pas coulé. Il est arrivé sur un récif. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait le tsunami là, cet été dans le Pacifique. Oui. Et je crois que c'était le lendemain ou un truc comme ça. Alors là, c'était un peu cash. Le message est arrivé du cross de Tahiti sans détour. L'une AB2 a été retrouvée et les photos.
Merci de venir le récupérer rapidement. Et du coup, vous auriez pu rester sur le bateau ou...
Ouais, il penchait, non?
Non, en vrai, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la mer, même s'il n'y avait pas des grosses vagues et tout, la mer rentre dedans. C'est-à-dire que quand on quitte le bateau, tu peux pas être. Alors il y en a qui nous disent on nous apprend qu'il faut rester sur le bateau. Ouais, mais c'est la théorie et en théorie tout se passe bien, tu vois. Mmh. Et en vrai, non, on a fait ce qu'il fallait faire. C'est ce que nous ont dit les secours. On n'a pas fait de suraccident, parce que ça, c'est souvent ce qui peut arriver. Tu vois, tu te dis, la mer est calme, je vais aller plonger, je vais mettre mon masque, je vais voir ce qui se passe sous le bateau. Non.
Faut pas faire ça. Merci beaucoup. Quel est le programme maintenant pour toi? Tu continues la voile, évidemment, quand même. Peut-être pas en compète.
Pas en compète, mais transmission, plutôt du côté coaching, accompagnement, prépa mental, tout ça.
Pas de Vendée Globe, pas de Rue du Rhum, non?
pas tout de suite.
Charline Picon dans le Super Moscato Show. Merci encore.
Merci.
Bientôt.
Charline Picon, qu'on suit depuis presque le début du Super Moscato Show, hein, puisque sa carrière correspond à peu près à...
T'en rappelles, on la recevait en studio, en studio à la Rio, en 2016, au Rio,
c'était déjà la reine de la planche à voile. C'est allez, on revient tout de suite avec le Journal Moyen, deuxième édition.
RMC, jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Vous êtes sur RMC, il est 16h45 et c'est donc l'heure de réécouter une archive, une vieille archive
miam.
Du Super Moscato Show. C'est le Journal Moyen.
À la une de ce Journal Moyen, deuxième édition, un nouveau tic de langage chez un footballeur. Nouvelle tribu après les voilà, les non. Eric, tu m'as réclamé une belle archive hier, télésourd. Vous vous souvenez de Télésourd? On a fouillé dans le grenier, ça c'est bien. Je te fais plaisir, Eric, t'inquiète pas, je vais te faire plaisir. Et puis 16h55, première question de Kikadi du jour. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, ne t'inquiète pas Vincent, il y en a pour tout le monde aujourd'hui. C'est le 2669e Journal Moyen de l'histoire du Moscato Show. Restez bien là, puisqu'on va s'occuper d'Eric tout de suite, c'était pas prévu. Jingle.
Direct live en plein milieu de la rédaction d'RMC. Toutes les infos que vous n'avez toujours pas entendues sont dans le Journal Moyen, deuxième édition.
Alors, avant de dérouler le conducteur que j'avais prévu du Journal Moyen, je vous raconte les coulisses, à 15h55, je vais en régie, puis j'entends une voix qui enregistre une pub en duplex. Une pub, je ne peux pas vous dire pour quelle marque, je ne vous dis pas pour quel domaine parce que j'ai peur de.
Non, mais j'en pourrais plus,
casser le contrat. Et donc, il y a Eric Chiméco. Alors, déjà, c'est Père Castor, hein, c'est un très joli compteur parce que la pub, c'est un peu une histoire.
C'est vrai,
c'est ce jour-là.
J'adore,
ce jour-là, le Tour de France arrivait. Et puis, vous avez, il y a les rushs. Donc, à un moment, il balance même sur Denis quand il se plante. C'est pas beau.
Ah, bravo.
C'est
merci,
pas beau auprès du réalisateur. Ah, bah, allez, on y va.
T'étais mon ami.
C'est pas joli, non.
Éric Dimeco. Je pense que cette pub va être diffusée cet été. Miam miam en voiture. On va se régaler quand on entendra Éric pendant les pubs, pendant le Tour de France. C'est parti.
Le Tour de France passait le lendemain par là. Dans ce coin-là, c'est une fête de village, une vraie. Allez, bonne écoute de ton Posca. Oh putain, j'ai fait une Denis Charvet.
C'est pas beau.
Vous avez tenu les meilleures prises. Ouais. Il y a pire que ça.
Ah, tu veux les autres?
On les a, t'inquiète.
Le parquet.
Le parquet,
Eric construit une maison, il a besoin de sous, donc
on aurait pu réécouter celle-là quand même aussi.
Allez, on y va, le parquet.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue chez le parquet. Regardez-moi cette équipe magnifique. Et ça démarre fort. Belle prise de contact de Lucas. Encore un très beau geste technique. Regardez, le client est pris en charge très rapidement.
Il y a mon pote David, le grand boss dedans. Il est nul. Alors moi je suis nul, mais lui il est nul.
Voilà,
moi, nous écoute.
Ça c'était pour la piscine. Et après il a besoin de faire une extension de sa maison. Donc il a contacté, vous savez, ce logiciel qui permet de voir s'il y a des bouchons ou pas.
Et qui
on donne pas la marque, mais qui vous prévient s'il y a des radars aussi sur la route. Et vaut mieux dépenser des sous dans un restaurant que de payer une amende.
C'est très bien joué. C'est un peu l'école canton au niveau du
action.
Je préfère garder ça pour un bon resto que de payer une amende. Allez, bonne route.
Voilà. Ça, il y a l'extension sur la maison.
C'est bien ça. Mais par contre, si vous voulez critiquer le texte, adressez-vous à la régie, on va voir.
Je vais te dire quelque chose.
Moi, je trouve qu'il est bien joué.
C'est propre.
Je suis fier de moi.
C'est propre. T'es fier, c'est normal. Ça dépend de combien t'es payé. Voilà,
bravo, Rico. On ne peut pas réécouter le premier. Le premier, non, parce que je ne veux pas abuser. C'est un truc qui n'est pas encore sorti.
Parce qu'il était bon.
Pas dans les clous. Sans transition.
C'est le compteur, quoi. C'est le mec qui te raconte. Ouais. Une histoire, c'était beau.
C'est la Ligue Europa, c'est Aston Villa qui a gagné. Jingle.
C'est très important.
Très important.
La concurrence. Qui est meilleur? Qui est meilleur? C'était meilleur.
Et oui, Aston Villa a gagné la Ligue Europa hier face à Fribourg 3-0 à Istanbul. Cinquième Ligue Europa pour Unai Emery, le coach d'Aston Villa, qui a fait du footing dans un hôtel de luxe avec Denis Charvet régulièrement quand il était à Paris.
Ils étaient tous les deux.
Et après le match, interview sur Canal Plus de Lucas Digne, le joueur français d'Aston Villa. Tu l'as vu cette interview, Pierrot?
Non, mais j'étais devant ma télé.
Vous connaissez chez les footballeurs la tribu qu'a découvert Julien Cazard, les voilà. Les joueurs disent souvent voilà. Et bien, Lucas Digne, lui, il a décidé d'intégrer une nouvelle tribu. C'est les non. Incroyable. Il commence toutes ses réponses par un non, quelle que soit la question.
Même s'il veut dire oui.
Même s'il veut dire oui. Il est au micro de Margot Dumont. Lucas Digne, les non. C'est parti.
Vous êtes champion d'Europe, c'est incroyable. Ça faisait 30 ans qu'ils attendaient ça derrière vous.
Non, c'est incroyable. Non, c'est juste incroyable. Maintenant, il y a juste à célébrer.
À titre personnel, qu'est-ce que ça fait?
Non, c'est extraordinaire.
Qu'est-ce qui a fait votre force cette saison?
Non, je pense que c'est la force d'un groupe.
Unai Emery aussi, là, c'est un magicien.
Non, c'est le travail de tout un groupe. Il a soudé tout un groupe.
C'est fou.
Sans transition.
C'est que c'est mon fils qui m'a fait remarquer ça, que je disais
paramment.
Tu sais que ça veut rien dire aussi.
Paramment.
Mais là, ça veut rien dire. Dis-moi, si quand je parle, si chaque fois que je parle, ça veut dire un truc, ça veut dire quelque chose. Je serai pas avec vous, les gars, rassurez-vous.
À un moment donné, c'est pareil que paramant.
Sans transition.
Alors, je suis pas d'accord. Parce qu'à un moment donné, c'est juste une contraction d'un
moment. Je veux dire, paramant, c'est quoi?
Apparemment.
Non.
Apparemment.
Je crois pas.
Apparemment.
Parce que dans le sens où vous utilisez Eric, c'est comme une ponctuation.
Non, c'est apparemment.
Tu verras. On le crèvera sur un truc, il nous le ressentira. Tu verras, ça veut dire apparemment.
Sans transition. Ah, Eric, tu m'as fait une demande. J'ai pas été gentil avec toi il y a quelques minutes, mais là je vais être gentil. C'est l'instant archive, jingle archive, émouvant ce jingle archive.
C'est pour qu'il me plaît, pour m'exprimer quoi.
Bah oui. Hier Eric, on parlait des incompréhensions à l'antenne, des quiproquos, et tu m'as réclamé une archive. On parlait d'accroupi hier. Vous vous souvenez, accroupi, le joueur qui n'existe pas, que Vincent avait lu une compo d'équipe, il était marqué accroupi. Pelé, Dimeco, Boli. Je vais inventer ce joueur accroupi. Et donc, Eric, tu as voulu réécouter Télésourd. Alors, pour les plus jeunes auditeurs qui nous écoutent, je vous donne le contexte.
Quelle année, tu sais ?
2014. Ah. C'est avant la Coupe du Monde 2014. Dans une chronique qui s'appelait Le Moscaland, des petites infos décalées. C'était le journal moyen d'époque.
Hein. Bienvenue dans Le Moscaland.
On apprend, et Pierrot, tu es très clair dans ton explication, c'est ça qui est dingue dans l'histoire. On apprend que pour la compétition, Diego Maradona va devenir consultant pour une chaîne vénézuélienne qui s'appelle Télésourd. Ça veut dire Télésud. C'est sourd, c'est sud en espagnol. Pierrot explique bien le truc. Et toi, je pense que t'écoutes pas Pierrot. Et il se passe un truc de fou. Pierrot, tu donnes l'info à Vincent et Vincent est magique. Archive mythique, archive Télésourd.
Et Télésourd, une chaîne vénézuélienne assez politisée, très de gauche, la gauche latino-américaine. Ils ont fait signer qui ?
Maradona.
Mais oui, Diego. Diego oui, Armando Maradona qui a déclaré.
Diego, ça va être énorme. En plus, il va faire le langage des muets avec les mains, ça va être terrible. Quoi.
C'est comme... Alors, là, mais ça croit que c'est une télé pour les sourds.
Mais c'est pas une télé pour les sourds,
t'as Télésourd. Non, Télésourd. Sourd, ça veut dire sud.
Mais quoi ?
Télésourd, c'est le nom de la télé. Mais...
Ah, Télésourd, c'est. Ah, moi, je croyais que c'était un truc pour les sourds muets. Ah non, bah, excusez-moi. Ah non, mais tu le savais, toi, Eric, peut-être.
Mais
tu rigoles, toi. Mais c'est une télé à l'Amérique du Sud. Toi, t'es au courant de tout, Eric. Tu sais tout.
Toi, t'es au courant de tout, Eric.
Comme il était énervé. Il était énervé que nous, on sache, et lui, non.
C'est normal, terrible, c'est que quand on a dit politiser à gauche, normalement, ça aurait dû t'allumer, t'aurais dû écouter.
Oui. Non, parce que j'ai pas écouté, j'ai dit encore une connerie.
C'est fou, quand même. C'est
Télésourd, t'imagines Maradona.
T'as pas écouté Pierrot.
Télésourd, tu sais pas.
Tu te dis, c'est un truc qui est hispanique.
C'est à la mode, maintenant, les
Vénézuéliens.
Ouais, c'est tout ça, tu vois.
Ouais, mais pourquoi Maradona, du coup
ouais, ben, parce qu'il joue de foot, je sais pas, moi. Et sa mère, elle est sourde, qu'il était habitué à en parler.
Il a pris le langage des signes. Il a dit,
mais t'es Diego.
Télésourd. Incroyable, Diego Maradona qui va faire ce langage des sourds et muets.
Surtout, il y a que Vincent qui avait pas compris.
Tu sais qu'aujourd'hui, il est encore vexé et il dit mais non mais attends mais moi il plaide sa bonne foi quoi, c'est incroyable Vincent putain.
Allez, le programme de la troisième heure, Mbappé au-dessus de Platini, l'UBB qui fait pas les playoffs et Fabien Onteniente.
Oh super.
Et sa biographie. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h,
le meilleur du Super Moscato Show.